Il est 17h15 minutes. Luc Ferrandez, donc, tu veux réagir à cette annonce d'Ottawa que Philippe vient de nous résumer fort bien?
Oui, eh bien, moi, je trouve toujours que le législateur, s'il joue aux échecs avec le virus, il y aurait toujours un coup de retard. C'est comme si le virus joue deux coups, puis le législateur joue un coup, lui.
C'est tellement drôle que tu dises ça, parce que pendant que j'écoutais Philippe, il y a une partie de moi qui disait hey, que je te dis que le virus, il s'amuse à nos dépens en ce moment, lui-là.
Bien, c'est parce que nous autres, on met des demi-mesures, puis peut-être que. Moi, la première chose qui me clarifie un peu ma compréhension du truc, c'est lorsque un épidémiologiste a expliqué que. On dit le nouveau variant de l'Afrique du Sud, mais il ne vient pas. Ce n'est pas parce qu'il vient de l'Afrique du
non,
Sud,
exactement.
C'est parce qu'il a été découvert en Afrique du Sud. Ça veut dire qu'il était peut-être présent au Nigeria, comme on l'a vu d'ailleurs, c'était le cas,
oui.
Et en Égypte, mais c'est en Afrique du Sud qu'on l'a découvert.
Parce qu'il y a des scientifiques qui travaillent là-dessus.
Et là, réaction formidable de nos gestionnaires. Ah, on a interdit les voyages en provenance d'Afrique du Sud.
Mm-hmm.
Mais c'est trois jours plus tard qu'on allume et qu'on dit « Ah, mais c'est pas juste l'Afrique du Sud, là. C'est d'autres pays. » Israël, eux, ils l'ont fait tout de suite, fermeture, bang, complet, ils ont
tout de suite compris. Mais remarque, le Canada avait fait l'Afrique australe, hein. C'était pas juste l'Afrique du Sud.
Oui, mais les pays autour de l'Afrique du Sud.
C'est
mais ceci étant dit, ça nous a échappé quand même.
Je veux dire,
si on était noté là, sur notre capacité à réagir, ben ça serait échec. Échec aussi dans la quarantaine qui a été imposée aux voyageurs qui revenaient. Ça avait l'air très sévère lorsque tu disais les documents, la quarantaine qui était imposée aux voyageurs l'an passé. Puis, dans les faits, tu te rendais compte que les personnes, c'était de l'auto-quarantaine. Il y en a qui étaient qui devaient aller à l'hôtel, mais il y en a qui refusaient d'aller à l'hôtel. Et depuis que le système d'hôtel a été abandonné, c'était de l'auto-quarantaine. Donc, c'est toi qui te mets toi-même en quarantaine. Puis, la vérification pour savoir si tu as vraiment été en quarantaine, était
faible.
Totalement faible, déficience, oui. un déficient, un téléphone au bout de trois semaines, est-ce que vous étiez vraiment en quarantaine? Oui. C'est pas comme ça qu'on va gagner. Hein?
Ça, c'est clair. Par contre, je dirais, il y a des cas aussi où des employeurs peuvent mettre leur pied à terre puis dire à leur employé, OK, tu pars dans le sud, parfait, mais n'oublie pas que quand tu reviens pas travailler avant telle date, puis c'est à tes frais, puis c'est à tes risques et périls. Tu vois ce que je veux dire?
Oui, tant mieux s'il y a des employeurs qui font ça, mais tu sais, ce matin, on ne le sait pas. On a, comme tu disais tantôt, est-ce que c'est dangereux? Il y en a moins. Ce qui semble se ressortir de plusieurs témoignages, c'est que il y aurait beaucoup plus de contagions, mais peut-être pas plus dangereux. Mais sauf que le boss de Moderna, le président de l'entreprise Moderna qui fait les vaccins, déclare que lui ne peut pas garantir que son vaccin va pouvoir arrêter le virus. Bon, est-ce qu'il y a un intérêt à le dire ça parce qu'il va développer un autre vaccin à coût de milliards de dollars? Sans doute.
Sans doute. Puis Pfizer, je ne sais pas, il me semble que j'ai lu qu'ils sont déjà en train de travailler sur comment faire le vaccin.
Mais moi, quand le boss de Moderna dit « notre vaccin, sans doute, pourra pas... » il n'était pas certain. Il disait « on va attendre deux semaines. Sans doute, pourra pas arrêter ce variant-là. » Ben, ça nous dit... Est-ce qu'on aurait pu prendre une précaution? Est-ce qu'on aurait pu dire, ben écoute, dans la possibilité où il puisse être extrêmement contagieux et aussi létal, ben on doit arrêter tout de suite, on doit prendre des mesures immédiates et radicales tout de suite. Je vois pas comme tu disais tantôt, sont meilleurs qu'avant, mais ils sont pas encore, il me semble, sur la coche.
Bon. Là-dessus, tu veux revenir sur le sujet dont on parlait tout à l'heure, qui soulève encore des passions. Je te dirais, les passions semblent légèrement plus apaisées que l'an dernier sur les fameux chevreuils de Longueuil.
Oui, légèrement plus apaisées parce que c'est le début. La décision vient d'être rendue. À mon avis, Mme Goldwater ne va pas laisser passer ça. Il va y avoir, je suis persuadé qu'elle va y aller à coup d'injonction. La difficulté, c'est que... pardon. Donc, pour résumer les faits, là, pour ceux qui l'ont pas entendu, il y aurait eu une décision de la table de concertation sur la préservation bio-écologique du parc.
Oui.
Et puis, cette table de concertation a recommandé l'abattage des chevreuils qui avaient doublé depuis l'an passé, depuis août passé, pas
oui.
ce août qui vient de passer, mais le précédent. Ils sont maintenant, plus de 70. Et d'ailleurs, la période de rut, c'est maintenant, hein, c'est novembre-décembre. Alors, l'an prochain, ils seraient encore plus nombreux et là, recommande l'abattage. Alors, c'est amusant parce que elle parle pas d'abattage, elle parle d'assassinat. Il y a une différence entre traiter les chevreuils de façon la plus humaine possible puis les traiter en tant qu'humains. Madame Goldwater, elle ne veut pas que les animaux soient traités bien comme des animaux. Elle veut qu'elles soient traitées comme des humains.
Oui.
Et donc, l'idée même que l'on puisse, même en faisant très attention, les capturer et les euthanasier,
les endormir, comme on dit aussi.
Constitue pour elle un crime. C'est comme ça qu'elle l'exprime. Alors, c'est très difficile de discuter avec une personne comme ça parce qu'il n'y a pas de valeur commune. C'est soit tes valeurs, soit les miennes. C'est difficile de trouver un lieu d'échange. Mais par contre, moi, je mettrais à l'œil aiguisé, sous l'œil aiguisé de nos auditeurs quelques faits. Là. Bon, premièrement, il y a la bernache. Hein, la bernache, qui est une sorte d'oie, là, oui. Qui prend de plus en plus de place dans nos parcs. J'ai visité des parcs en Suède, notamment à Malmö, des parcs deux fois, trois fois plus gros que le parc La Fontaine, totalement abandonnés à cause de la bernache. Donc, ce sont des parcs qui ont été construits pour les humains, tu sais.
Oui, il n'y a plus de place pour nous.
Ben non, c'est ça. C'est que je peux comprendre des fois que les humains prennent la place des animaux. Et là, dans ce cas-là, c'était les animaux qui prenaient la place des humains parce que ce sont des animaux dont les déjections sont assez consistantes. C'est assez gros, là. C'est la taille d'un doigt à peu près. Mm. Et elles sont des milliers et des milliers. Donc, plus un enfant, il n'y a plus un adulte qui pouvait marcher dans le parc. Alors, laisser le libre cours aux bernaches, ce n'est pas une bonne idée non plus. Et ce qui se produit, c'est que... Puis, il y a eu les castors le long du canal de la Chine. T'sais, c'est sûr que on veut pas de mal aux castors, mais un castor, ça mange des arbres au déjeuner. Puis les arbres en milieu urbain, c'est extrêmement important, rare, ça prend du temps à pousser, etc. Et... lorsqu'il en tombait une douzaine par semaine, bon, à un moment donné, il a fallu prendre la décision là, de déplacer des castors. Et ça avait aussi généré un certain émoi à cette époque-là. Mais le pire dans tout ça, c'est qu'en milieu urbain, si tu enlèves de la végétation, des arbres et des plantes qui occupent le sol, presque automatiquement, ça va être remplacé par deux plantes que tu ne veux pas voir arriver, le nerprun puis la phragmite.
Ah, tu as tellement raison. Hey, je vais te demander de conclure parce que oui, le temps file, mon cher Luc.
Ça, c'est comme le nerprun puis la phragmite, là, ça, ce sont des arbres, ce sont des plantes qui évacuent toute forme de biodiversité. Il n'y a pas d'oiseaux qui vont là. Il n'y a pas de plantes qui peuvent pousser en dessous ou à côté. Ça tue les parcs. Alors, c'est une réflexion en profondeur à avoir.
Tout à fait. Je sens qu'on va poursuivre la discussion dans les prochains jours. Je te remercie infiniment, Luc.
Merci, à bientôt.
Bonne soirée. Petite pause et au retour, Pierre-Yves Maxwin nous parle entre autres de cette mesure du ministre du Travail qui veut donner 475 $ par semaine aux gens sans emploi pour avoir une formation.